Religion du Monde, Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Nous partons en Jordanie, pays de 11 millions d'habitants, situé à l'est d'Israël et de la Cisjordanie occupée, bordé par la Syrie au nord, l'Irak à l'est et l'Arabie Saoudite au sud et à l'est. Dans cette région instable et explosive, la Jordanie veut maintenir son image de pôle de stabilité. Alors que la guerre à Gaza fait craindre un embrasement régional, après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 et les opérations militaires meurtrières lancées par Israël, qui ont fait des milliers de morts, le royaume hachémite tente d'apaiser les tensions par la voie diplomatique. Le royaume mise aussi sur le dialogue interreligieux pour promouvoir le vivre ensemble dans un pays à 90% musulman où l'islam est religion d'État et où vivent environ 5% de chrétiens. Rencontre et reportage à Amman, réalisé en janvier dernier. Amman, capitale de la Jordanie. Au cœur de la ville, nous sommes dans la grande mosquée du roi Abdallah, surnommée la Mosquée Bleue, en compagnie de notre guide Firas Malkawi.
On a une mosquée qui porte le nom du roi Abdallah, le premier, le fondateur de la Jordanie. Donc ça c'est une de 1000 mosquées construites sur Amman. Et ça c'est une mosquée construite à l'époque du roi Hussein. Entre 1982 et 1985, c'est-à-dire c'est le roi Hussein qui a financé ce boulot. Et cette mosquée se trouve au milieu de lieux saints chrétiens, deux églises, une église copte égyptienne et une église catholique, donc ça confirme en fait la cohabitation entre les Arabes, Jordaniens, chrétiens et musulmans. L'église grec-orthodoxe, comme c'est connu, célèbre leur messe deux fois par semaine, vendredi et dimanche. Donc on entend quelquefois le muezzin avec la cloche quoi, au même temps.
Le royaume hachémite est indépendant depuis 1946. La constitution de 1952 établit l'islam comme religion d'État, mais interdit toute discrimination religieuse. Selon l'article 14, l'État protège la libre pratique des religions et des croyances conformément aux traditions du royaume. Dans les années 1990, des slogans visant à cimenter l'identité nationale, comme « Nous sommes tous la Jordanie », ont pu contribuer à promouvoir la cohabitation et le vivre ensemble. C'est aussi le but de l'Institut royal pour les études interreligieuses, fondé en 1994 à Amman par le prince El Hassan bin Talal, l'oncle du roi Abdallah II. Depuis 30 ans, cet institut promeut la paix à travers le dialogue interreligieux. Renée Hattar dirige cet institut depuis 2 ans. Elle revient sur cette coexistence entre chrétiens et musulmans en Jordanie.
Ici, en Jordanie, les chrétiens, comme les musulmans, font partie des peuples originaires de la Jordanie. C'est-à-dire, on parle toujours des minorités en général, et on parle des chrétiens comme si ils sont arrivés récemment en Jordanie, par exemple. Ils essayent de s'intégrer, comme dans toutes les sociétés. Ce n'est pas le cas en Jordanie. Les chrétiens sont des Arabes, des Bédouins même, les originaires, qui sont nés ici, ils ont la culture arabe, ils ont toujours fait partie de cette culture, de cette société, et avec la création du royaume, ils ont toujours été là. Et quand on dit minorité aujourd'hui, ils sont peut-être minoritaires en ce qui concerne leur nombre, leur représentation.
Mais entre 3 et 6 % de la population, c'est ce qu'on dit.
Voilà, tout à fait. Donc, et ça a beaucoup d'explications en ce qui concerne leur immigration, par exemple, ou soi-disant l'histoire qu'on a eue, comme les musulmans même, qui immigrent pour des opportunités économiques plutôt. Mais leur représentation dans la société, en ce qui concerne leur travail, leur participation dans la vie politique, artistique, économique, publique, est très très importante. Ça n'a jamais été une réflexion d'une minorité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'on a un système en Jordanie, grâce à la famille royale, qui maintient cet équilibre, qui maintient cette unité, cette citoyenneté, et surtout qu'on a toujours le sentiment qu'on est une famille unie en Jordanie.
Donc même si dans le pays, effectivement, la religion d'État est l'islam.
Bien sûr, parce que comme les chrétiens ont toujours eu la liberté de pratiquer leur religion avec liberté, on n'a jamais eu des problèmes pour construire des églises, pour reformer des églises. Et on fait partie de cette culture, soi-disant, arabe-musulmane, et on accepte cette partie. Donc pour nous, c'est un facteur d'enrichissement pour les chrétiens et pour les musulmans.
Et que connaissent les chrétiens des musulmans et inversement, les musulmans des chrétiens ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour la religion de l'autre ou finalement, c'est une affaire privée, on n'en parle pas ?
Ce n'est pas privé, on est une société plutôt religieuse, si je peux le dire, en ce qui concerne comment on vit la foi. Parce qu'on pratique ça, la foi est dans tous les domaines de la vie en Jordanie. Donc ce n'est pas un tabou si on a des questions envers l'autre, comment tu fais ça, est-ce que tu crois en ça, tu ne crois pas en ça. Et bien sûr les chrétiens savent beaucoup plus sur les musulmans parce que c'est une société musulmane. Les musulmans savent beaucoup sur les chrétiens parce qu'on est des amis, des voisins, des collègues, etc. Mais ils savent malheureusement pas beaucoup sur la foi ou sur la religion même parce que ce n'est pas enseigné dans les écoles. Donc on essaie toujours de parler des autres religions qui existent en Jordanie, au moins pour savoir un peu plus d'informations sur ça. Surtout en ce qui concerne les écoles, par exemple. Les écoles publiques, on n'enseigne pas. Sur les autres religions, on a même des cours de religion. Tandis que dans les écoles privées, tous les musulmans qui étudient dans les écoles privées chrétiennes savent beaucoup plus sur le christianisme parce qu'ils peuvent avoir beaucoup plus d'informations pour les prêtres et pour le système éducatif. Dans le système éducatif jordanien, dans toutes les écoles privées ou publiques, on enseigne l'islam dans les cours de religion. Et dans les écoles privées, on fait aussi la même chose pour les étudiants chrétiens et on enseigne un cours de religion chrétienne. Donc c'est le système en général.
Parmi les quelques 5% de chrétiens en Jordanie, les Grecs orthodoxes sont majoritaires. Ibrahim Dabour est prêtre orthodoxe. Il nous reçoit à la cathédrale de la Présentation du Christ à Amman, construite en 1989. Ibrahim Dabour est le secrétaire général du Conseil de toutes les églises chrétiennes de Jordanie. Lui-même est d'origine palestinienne. Son père est né à Ramallah, sa mère à Jaffa. Ils se sont installés en Jordanie en 1954. Aujourd'hui, dit-il, il y aurait environ 90 000 orthodoxes en Jordanie, une présence qui date de plusieurs siècles.
If you go to see all the ruins and the basilic churches here,
si vous allez visiter les ruines et les églises sur tout le territoire de la Jordanie, vous remarquerez que c'est écrit avec l'alphabet grec. Les chrétiens orthodoxes étaient présents avant les musulmans. Les musulmans, eux, sont arrivés ici en 630 après Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont arrivés, nous nous sommes unis à eux et nous avons continué à pratiquer notre religion chrétienne. Et il y a eu de la part d'Omar ibn al-Khattab, un compagnon du prophète Mahomet, un engagement signé qui nous permettait de rester sur cette terre et d'avoir nos propres églises et la liberté de prier Dieu comme nous le voulions.
Our own freedom to worship God as we want. Here, also in Palestine and Jordan.
Ici, en Jordanie et en Palestine, la famille hachémite a continué à honorer cet engagement d'Omar entre les musulmans et les chrétiens. Donc, nous sommes libres de vénérer Dieu, nous avons nos propres cultes, nos propres lois civiles pour le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Et nous sommes libres de pouvoir construire des églises.
And we are free to build churches. When the Lutherans and the Anglican and the Catholic churches, they came and they established.
Lorsque les églises luthériennes, anglicanes et catholiques sont venues s'établir vers 1920 et après 1948, elles ont commencé à développer des écoles et à faire du prosélytisme. Nous, les orthodoxes, nous étions les chrétiens majoritaires, mais nous avons créé des espaces de dialogue. On vit en harmonie, dans le dialogue. Nous sommes membres du Conseil des Églises. Si nous avons un problème, nous nous réunissons entre tous les chrétiens et nous nous adressons au gouvernement d'une seule et même voix.
Have harmony. If we face any problem, we sit together and we go to the government with the one voice.
Parler d'une seule voix entre tous les chrétiens, c'est aussi une nécessité, explique Ibrahim Dabour.
We are Christians, all of us. We are minority.
Nous sommes tous chrétiens et ici dans le pays, nous sommes une minorité. Nous ne sommes pas très nombreux et nous devons rester unis, en harmonie. Car les musulmans ont du mal à faire la différence entre catholiques, grecs orthodoxes, syriaques, coptes, etc. Ils nous voient tous comme des chrétiens. Donc si nous avons des problèmes, nous devons les affronter tous ensemble.
Partons à la rencontre du moufti Hassan Abou Harkoub. Docteur en études islamiques, il travaille pour le ministère des Affaires religieuses de l'État jordanien. Il nous reçoit chez lui.
Nous avons trois institutions religieuses en Jordanie. Le ministère de Al-Awqaf, des Affaires religieuses et des lieux saints, qui s'occupe des mosquées, des imams et des prêches du vendredi. La deuxième, c'est le département de la justice, qui s'occupe des affaires de statut personnel sur le mariage, le divorce et l'héritage, les lois civiles en Jordanie. La troisième institution religieuse, c'est le département général de la fatwa, chargé de répondre aux questions des citoyens, y compris ceux de l'extérieur du royaume, ainsi que des institutions à l'intérieur du royaume.
Hassan Abou Harkoub, comment expliquer qu'il n'y ait pas de tension entre les communautés musulmanes et chrétiennes ?
D'abord, grâce à la cohabitation des Jordaniens, chacun a la liberté de pratiquer sa foi et ses rituels. Le musulman a ses mosquées dans lesquelles il prie, le chrétien a ses lieux dans lesquels il prie. En plus de cette religion ou de la religiosité des individus, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, il y a la religiosité du milieu où il n'y a pas d'extrémisme ni de violence. Et c'est très important. Peut-être que dans certains pays, vous trouverez des extrémistes musulmans ou chrétiens, mais en Jordanie, nous n'avons pas d'extrémisme. Deuxièmement, le pouvoir politique en Jordanie. Tous les citoyens jordaniens sont égaux devant la loi, quelle que soit leur religion. On peut connaître la prospérité ou, au contraire, des problèmes économiques, quelle que soit notre religion. Tous les dirigeants politiques, tous les citoyens, quelle que soit leur religion, sont égaux devant la loi. Dans certaines régions, on ne peut pas faire la différence entre un musulman et un chrétien. Lors des mariages, par exemple, on se rend visite et tout le monde s'assoit ensemble, mais on ne peut pas dire « celui-ci est musulman, celui-ci est chrétien ». Moi, je suis pratiquant depuis que je vais à l'école. Mes amis m'appelaient toujours « cher » et mes deux meilleurs amis étaient chrétiens.
Le prêtre catholique Rifat Bader est le curé de l'église du Sacré-Cœur située sur une colline de la capitale, Amman. Il dirige le Centre catholique pour les études et les médias en Jordanie. Il est fondateur du site abouna.org, qui signifie « Notre Père ». Il est très impliqué dans le dialogue interreligieux.
Il y a, en Jordanie surtout, il y a ce dialogue de vie. Le dialogue quotidien, quand on étudie ensemble, quand on travaille ensemble, quand on se traitent ensemble dans toutes les dimensions de vie. Et chaque jour, c'est un dialogue. C'est un dialogue basé sur l'éducation qu'on prend quand on était enfant. L'éducation des familles, quelquefois, est plus dangereuse que l'éducation des écoles, car c'est le patrimoine de la famille qui se passe de génération en génération. S'il y a de haine et de refus contre l'autre, ça va continuer dans la même famille. Quelquefois, des gens, des jeunes qui se trouvent dans l'université et traités avec des gens chrétiens et musulmans, il y a l'ouverture, il y a aussi des blessures. Ça dépend de l'éducation familiale et puis les écoles, quand on s'assoit ensemble dans la même classe, avant d'apprendre des livres, on apprend mutuellement de la vie, de la relation. Et puis, il y a la société. Chaque jour, on doit se traiter avec des musulmans. Alors, dans quelle mentalité nous vivons, ça dépend de l'éducation qu'on a prise. Je pense toujours au cardinal Thoron, qui était un grand personnage de dialogue. Louis Thoron, qui était français par hasard, alors il était le directeur du dialogue interreligieux au Vatican pour plusieurs années. Il disait, quand on a refondé, rebâti les relations avec l'Azhar, avant de mourir, 3 ans avant sa mort, et avant la visite du pape en Égypte, il disait, quand on suit la voie du dialogue, on donne un cadeau à l'humanité. Quand on se ferme ou on frise la voie du dialogue, on donne un cadeau pour le terroriste. La voie du dialogue, c'est la clé principale pour l'humanité. La voie de fermeture, alors on donne ce cadeau aux terroristes. Laissons-nous, comme gens du Moyen-Orient, dans tout le monde, de suivre la voie et le chemin du dialogue.
Un constat que partage Aïcha Ladiri, chercheuse à l'Institut royal d'études interreligieuses, elle-même d'origine tunisienne et mariée à un Jordanien.
À mon avis, il s'agit d'un faux problème de faire cette contradiction entre minorité chrétienne et majorité musulmane, malgré la différence de membres. Je crois qu'il s'agit d'un peuple uni, des citoyens jordaniens. Donc, ça ne sert à rien de faire cette distinction. La première, qu'il y a une histoire commune entre tout le peuple jordanien. Il s'agit d'un peuple uni. Ils partagent entre eux l'histoire, la culture, les traditions. Ils ont l'air de cohabitation en paix et en plein respect. Donc, il n'existe pas un problème religieux entre eux. Donc, ils sont un peuple, des citoyens qui font tous pour leur, le meilleur de leur pays. Tous, on est réunis sous cette constitution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui assure cette tolérance, je crois que parce que c'était un choix aussi de ce pays. Le roi souverain a mentionné ça en plusieurs reprises. Je peux citer ici comme exemple le message de Amman, qui est un message qui renforce cette solidarité.
Donc ça, c'était en 2004.
Donc ça fait 20 ans de cette déclaration. Donc ce message insiste sur la pratique libre des religions, avec le grand respect et contre l'extrémisme. La deuxième reprise, il a mentionné aussi la semaine d'harmonie interreligieuse aux Nations Unies et qui a été adoptée même et célébrée tout la première semaine du mois de février. Donc je crois que c'est un choix aussi, de choix politique, choix de roi souverain, que ce peuple reste en paix, en respect et qu'ils pratiquent tous avec une grande liberté leur religion, chacun pour soi. Donc il n'y a pas de problème entre eux. C'est d'être en paix, c'est de vivre ensemble. Et enfin, on dit que la diversité enrichit.
Aïcha Ladiri fait remarquer que depuis les années 1990, le royaume hachémite a mis en place une formation des imams et un contrôle des prêches du vendredi.
La formation des imams et même les formations qui se font dans les universités, les autres domaines, tous se rassemblent dans un seul but. C'est de ne pas avoir de l'extrémisme, de garder la paix, la vie ensemble et que, en respectant la loi,
Donc cette formation, c'est pour garantir aussi ce choix, ce chemin. C'est pour avoir aussi, c'est bien d'être quand même formé, éduqué, même dans les principes ou dans les principes religieux, ce que je veux dire. Donc ça aussi renforce que c'était un choix. Il s'agit d'un choix des pays, donc dans tous les domaines, y compris le domaine des imams et religieux et tout.
Le mufti Hassan Abou Arkoub explique ces changements apportés par les autorités jordaniennes pour contrer l'extrémisme lors des prêches du vendredi.
Par exemple, pour le prêche du vendredi, auparavant, chaque imam pouvait choisir le sujet qu'il voulait pour parler devant ses fidèles à la mosquée. Mais depuis plusieurs années, c'est le ministère de Al-Awqaf, le ministère des Affaires religieuses, qui choisit le sujet du prêche du vendredi. Désormais, il y a donc un prêche commun, mais les détails sont choisis par le prédicateur lui-même. La semaine dernière, j'ai parlé des 4 mois sacrés selon le calendrier lunaire. Nous sommes dans le mois de Rajab où il faut jeûner.
Alors que le pays fait face à un contexte régional explosif avec la guerre à Gaza et la situation de famine qui s'aggrave, en pleine période de Ramadan, la Jordanie veut montrer une image de stabilité, comme le souligne le prêtre catholique Rifat Bader.
C'est une année jubilaire pour nous, le jubilé d'argent pour le roi. Alors on va fêter prochainement et on est fiers. Car 25 années du royaume sous la guidance de Dieu, bien sûr, et puis de ce roi qui était jeune quand il est devenu roi, il avait 37 années, alors tout le monde était surpris comment il va guider la Jordanie. Après 25 années, on trouve que la Jordanie est encore stable, et grâce à Dieu.
Dans un endroit, effectivement, oui. Une région très sujette à des tumultes, donc à des violences, que ce soit la guerre à Gaza, le conflit israélo-palestinien, le Liban, la Syrie, l'Irak.
Quand le roi a dit un jour un mot sur l'ONU, il disait que la Jordanie comme une maison stable dans un milieu brûlé. Alors, le feu était partout autour de nous, mais grâce à Dieu, la Jordanie est encore un pays de paix, de stabilité, d'harmonie aussi entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y avait jamais de problème entre nous et les musulmans, il n'y avait jamais un problème entre les citoyens jordaniens, mais aussi il y a une quasi-majorité des citoyens qui ont l'origine palestinienne. Mais grâce à Dieu, malgré tous les défis et les tempêtes, la Jordanie est stable, grâce à Dieu.
Lors de son voyage apostolique en Jordanie en 2014, le pape François avait insisté sur la dimension œcuménique et interreligieuse de ce déplacement. Il avait rappelé l'importance de cette terre, je cite, « riche d'histoire et de signification pour le judaïsme, le christianisme et l'islam ». Il avait aussi remercié le roi de Jordanie pour la promotion, je cite, « de la sereine cohabitation entre fidèles des différentes religions et en faveur du dialogue interreligieux dont le message interreligieux d'Amman de 2004 et la promotion auprès de l'ONU de la semaine d'harmonie entre les religions » célébré désormais tous les ans en février. Le message d'Aman, qu'a déjà évoqué Aïcha Ladiri dans cette émission, a constitué une étape importante, nous dit Rifat Bader.
C'est bien aussi cette année de concentrer sur le message d'Aman qui a été livré de Aman il y a 20 ans. Le message d'Aman ou Risalat Aman en arabe, c'est un document très important pour nous. C'était issu de la Jordanie en 2004. Comme une réponse, après 2001, il y avait les attaques de New York, terroristes.
En septembre 2001.
Oui. Alors, puis, on a commencé à parler contre l'islam comme une religion de terrorisme. Il y avait 2 réponses. La première réponse était par les Arabes chrétiens. Il y avait une conférence très importante en 2002. Et c'était le 11 mars. Alors, c'était comment les chrétiens défendent l'islam de ne pas être terroristes. C'était un moment historique pour nous. C'était une réponse à toutes les attaques contre l'islam. Bien sûr, il y a des gens militants qui se prétendent d'être musulmans pour justifier les actes terroristes, mais ce n'est pas l'islam. L'islam est une autre chose. L'islam est une religion. Maintenant, c'était la première réponse et cette conférence était sous le patronage du roi, qui était encore jeune, il y avait 3 ans comme roi. Mais puis il y avait la réponse de l'intérieur de l'islam, avec le roi, avec beaucoup de sages musulmans qui ont écrit ce message d'Amman. Elle était citée par beaucoup de papes. Il y avait le pape François qui a cité, le pape Benoît XVI. Mais il y a cette reconnaissance pour ce message. Nous fêtons 20 ans cette année, car il a clarifié un peu l'islam. Ce n'est pas une religion de guerre, c'est une religion de paix. Et sur cette base, on a trouvé nous-mêmes comme responsables d'encourager cette direction vers la paix et de se coordonner pour bâtir la civilisation humaine ensemble.
Écoutez Religion du Monde sur RFI.
Le royaume hachémite est indépendant depuis 1946. Il a accueilli de nombreux réfugiés palestiniens en 1948 lors de la création de l'État d'Israël, puis une seconde vague de réfugiés après sa lourde défaite lors de la guerre des Six Jours en 1967, lorsqu'il a perdu sa souveraineté sur la Cisjordanie. Sans oublier plus d'un million de réfugiés syriens et irakiens depuis les années 2011. Avec la guerre que mène l'armée israélienne contre le Hamas à Gaza, d'une ampleur et aux conséquences humanitaires sans précédent, la Jordanie craint une déstabilisation de toute la région. La directrice de l'Institut royal d'études interreligieuses, Renée Hattar, ne cache pas son inquiétude.
Dans la société jordanienne en général, on a vu un type de frustration, un niveau de frustration, surtout avec les jeunes gens qui nous disent « si on ne peut pas appliquer les lois internationales, si on ne peut pas avoir la justice en ce qui concerne les droits de l'homme, le Conseil de sécurité, etc., à quoi ça sert ? Surtout qu'on sait qu'après, par exemple, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'idée c'était d'essayer d'éviter de répéter les guerres qu'on a eues, mais aussi le manque d'humanité qu'on a eu. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à Gaza, on n'est pas sûr. Enfin, les gens ont vraiment perdu beaucoup de foi, d'espoir en ce qui concerne l'application des lois. Et beaucoup de jeunes gens me disent que maintenant, il paraît que la loi est du plus fort. Donc si on a le pouvoir, on a notre justice. Mais ce n'est pas la justice ni les lois dont vous nous parlez, comme dans la Déclaration internationale des droits de l'homme. Ils me disent toujours, et à quoi ça sert ? Tout ce que vous avez expliqué.
Et en quoi le religieux doit aussi apparaître ? C'est-à-dire, on parle de dialogue interreligieux. Est-ce qu'il faut en parler davantage dans ce contexte-là de crispation, effectivement, ou d'interrogation sur cette inégalité ?
Oui, on a fait des sessions, même avec des experts, pour parler d'abord que dans cette guerre, on a vraiment... J'aime pas l'usage du mot « violer », mais on a vraiment vu une violation, pas seulement des droits, mais aussi des sites religieuse importante pour toutes les religions, surtout les chrétiens et les musulmans. Donc on a vu la destruction des mosquées, des églises qui font partie d'un patrimoine international, qui ont beaucoup de significance. À Gaza, mais pas seulement à Gaza, sinon dans toute la Terre Sainte. Tout le monde parlait aussi de la situation des chrétiens palestiniens, comme s'ils ne faisaient pas partie de cette guerre. Donc on a parlé aussi de la citoyenneté, des initiatives qui ont eu lieu parmi les chrétiens même en Palestine, comme par exemple Kairos Palestine. C'est une des initiatives très importantes en ce qui concerne l'occupation et la responsabilité des chrétiens pour avoir une résistance non violente, pacifique, contre l'occupation. Dans un de nos projets, on a essayé d'étudier le rôle des chrétiens arabes dans la société musulmane, mais aussi des juifs arabes dans la société musulmane. Parce qu'avant l'établissement de l'État d'Israël, les juifs qui vivaient dans le monde arabe étaient des arabes, des irakiens, des syriens, des libanais, des marocains, etc., des yéménites. Ils avaient un rôle très important dans la société. Donc la religion juive, ce n'est pas un problème pour les Arabes. Le problème, c'est l'État d'Israël, c'est le sionisme, c'est la politique, ce n'est pas la religion. Et ça, c'est un point, je pense, très très important à expliquer et à aider, disons, les gens à ne pas confondre les deux choses.
Mais en Jordanie, il n'y a pas de synagogue, comme le signale le prêtre catholique Rifat Bader. Et le dialogue est d'autant plus compliqué dans ce contexte de la guerre à Gaza.
En Jordanie, on n'a pas de juifs. Dans des autres pays dans le monde arabe, oui, il y a. En Palestine, bien sûr, en Irak, il y a. En Égypte, quelquefois. Une fois, une dame m'a envoyé un message sur Facebook. Pourquoi vous écrivez de toutes les minorités religieuses, sauf nous? Je disais, qui êtes-vous? Elle disait, nous sommes les Juifs d'Égypte. Alors, on a une petite minorité, mais ne pas bien insérés dans la société. Quelquefois, ils travaillent sans dire leur identité religieuse, car c'est très dangereux, quelquefois. Quand on mélange la religion avec la politique, on doit arrêter le dialogue. Et s'il y a une ouverture pour regarder les choses nettes, alors il y a une religion juive, mais il y a un État israélien. Ce n'est pas le même. L'État israélien est basé sur les intérêts politiques. La religion, la vraie religion juive, c'est une religion qu'elle doit être une religion de paix. Mais quelquefois, quand on mélange les choses, et surtout quand Israël a fait un décret que chaque Israélien va être, comme nationalité, être nommé comme juif, c'est un désastre, vraiment. De mélanger entre la religion et la politique.
En même temps, Rifat Bader, il y a une volonté aussi de la Jordanie de promouvoir le tourisme religieux en Jordanie. Et il y a une histoire commune aux trois monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc oui. Il y a quand même aussi ce socle. Qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui se dit de cette histoire commune?
Oui, c'est très important. On doit s'admettre toujours que la Jordanie est inséparable de la Terre Sainte. On est une Terre Sainte ici. Il y a beaucoup d'événements de l'Ancien Testament qui s'est déroulé ici, surtout avec Moïse. Moïse, par exemple, qui est venu au Mont Nebo pour regarder la Terre des Promesses, car c'est difficile de dire la Terre promise. La Terre des Promesses, c'est plus large pour tous. Et maintenant, il y a aussi des événements au Nouveau Testament qui se déroulaient aussi en Jordanie. On ne peut pas nier l'histoire. L'histoire, c'est ça. Il y a un peuple qui était avec Dieu partout pour arriver à la venue de Jésus. Et Jésus lui-même est refusé par les Juifs maintenant. Alors, il y a cette fierté vraiment d'être une Terre Sainte. Mais il n'y a pas une fierté semblable pour la situation actuelle. Car ça nous défend chaque jour de s'exprimer pour notre, disons, relation avec les Juifs. Ça doit être une relation bonne. Mais parce qu'elle est mélangée avec la politique, on n'a pas de relation. Il n'y a pas un dialogue interreligieux entre chrétiens et juifs. Il y a seulement ce dialogue entre les juifs musulmans et chrétiens, islamo-chrétiens. Quand la situation va être résolue entre Palestine et Israël, je pense qu'il y aura plus de relations. Mais pour le moment, on doit mettre tous les efforts pour la paix.
Le moufti Hassan Abou Arkoub est lui-même d'origine palestinienne, de Ramallah par son père et de Naplouse par sa mère. Les Jordaniens et les Palestiniens sont un même peuple, dit-il. Pour lui, le dialogue avec des rabbins, en ce moment, n'est pas possible.
Vous savez, la politique israélienne est une politique raciste qui pratique la persécution contre les peuples musulmans et chrétiens à Jérusalem et dans toute la Palestine. Ils veulent un État juif pur, c'est ce qu'ils déclarent.
Mais au niveau de certains rabbins, est-ce qu'il y a un dialogue possible ?
Les voix modérées parmi les juifs sont minoritaires. On les voit, ces gens modérés. Nous coopérons avec eux et ils coopèrent avec nous. On les voit manifester en Palestine avec des musulmans et des chrétiens. Mais le problème, c'est que leur voix ne porte pas et on n'entend que les extrémistes.
Et Hassan Abou Arkoub assiste impuissant à la guerre qui ravage l'enclave palestinienne où il a encore de la famille.
J'ai des cousins qui habitaient au nord de Gaza avant la guerre, mais après l'opération militaire israélienne contre les Palestiniens, ils ont été obligés de déménager, de s'exiler près de la frontière avec l'Égypte à Rafah, sans rien, sans manger, sans boire. On essaye de temps en temps de les aider, de leur envoyer de l'argent, mais il y a très peu de connexions Internet. C'est un grand problème. Le dernier appel qu'on a eu avec mes cousins, ils disaient « aidez-nous, parce qu'on n'en peut plus ». Nous mourrons.
Quel est le message que vous envoyez aujourd'hui, dans le contexte actuel, sur peut-être la nécessité d'un dialogue encore au-dessus, peut-être, plus fort ? Est-ce qu'on vous entend ?
La terre appartient à tout le monde, elle n'est limitée à personne. C'est l'idéologie extrémiste qui rejette l'autre. C'est ce qui provoque la violence, comme en Palestine. Il ne faut pas écouter les plus radicaux, ce sont eux qui rajoutent ces tensions. Ce sont les juifs et leur idéologie sioniste extrémiste. Ils n'acceptent pas les arabes, ils n'acceptent pas les musulmans et ils n'acceptent pas les chrétiens. Ils ont essayé de les tuer, de les affamer. Ils tuent des enfants, des femmes, des personnes âgées. Ça devient une fierté, mais cela devient immoral et ça ne peut pas être attribué à la religion. Il faut écouter les gens modérés.
Et est-ce qu'on vous écoute ?
Nous, on parle, mais le monde doit chercher les gens modérés. Il y a une sorte d'hypocrisie occidentale vis-à-vis de ce conflit. Regardez, lorsque les événements en Ukraine se sont produits, le monde s'est soulevé et a commencé à fournir des armes aux Ukrainiens. Mais cela fait des années et des années que les Israéliens assiègent Gaza sans que personne ne dise rien. C'est de l'hypocrisie occidentale. Est-ce que ça signifie que les Ukrainiens sont des humains et les Palestiniens sont des animaux ? Non, ce sont des humains.
Le prêtre orthodoxe Ibrahim Dabour, lui, lance un cri d'alarme, car il a le sentiment que les chrétiens, eux, sont au milieu d'une poudrière. Il faut absolument dialoguer pour se sortir de ce temps de guerre, dit-il.
Nous avons des problèmes avec les fanatiques musulmans, car ils considèrent que les chrétiens de cette région appartiennent à l'Occident. Pour eux, tous les Occidentaux sont des chrétiens, les Américains, etc. Et quand George Bush a attaqué l'Irak, les musulmans fanatiques ont voulu brûler toutes les églises, car ils considéraient que tous les chrétiens étaient des Occidentaux. En même temps, on a des problèmes avec les Occidentaux qui nous considèrent comme des Arabes et des fanatiques. Et puis nous avons des problèmes avec les Juifs, car ils nous considèrent comme les musulmans, comme des terroristes, parce qu'on est arabe. Et nous avons des problèmes avec les musulmans fanatiques, qui considèrent cette région comme appartenant aux musulmans. Et les Juifs estiment que la Palestine leur appartient. Mais nous sommes chrétiens, donc la Palestine devrait nous appartenir en fait. Nous étions là avant les Juifs et avant les musulmans. Nous sommes devenus arabes, nous nous sommes unis à ces groupes qui se sont installés ici et nous vivons avec les Juifs et les musulmans. En tant que chrétiens, nous aimons les deux, les Juifs et les musulmans. Je ne peux pas haïr les Juifs ou haïr les musulmans. Je suis chrétien. Si je hais quelqu'un, je ne peux pas être chrétien. Jésus m'a appris à aimer mon ennemi. Mais le problème, c'est que eux, ils nous haïssent. Ils nous considèrent comme des étrangers. Et nous avons des problèmes avec les fanatiques musulmans et les fanatiques juifs, et même avec les occidentaux qui ne comprennent pas notre existence ici. Nous sommes très tristes de la situation qui se déroule à Gaza, en Palestine. Mais moi, je crois au dialogue. La guerre ne peut pas amener à la paix. Le dialogue peut créer la paix. On ne peut pas obtenir nos droits par la guerre. Le plus important, c'est le dialogue. Je veux vous rappeler que les Arabes, les chrétiens, les musulmans et les juifs, avant 1948, vivaient ensemble. Nous sommes contre l'occupation, contre le terrorisme, contre les massacres. Mais je pense qu'à travers le dialogue, on peut obtenir ce qu'on veut.
Ce dialogue que prône Ibrahim Dabour est en perpétuelle construction et le prêtre Rifat Bader a lui-même tissé des ponts pour le construire tout au long de son parcours et il faut le poursuivre, dit-il.
Je suis né en Jordanie et je suis fier d'être citoyen ici. J'ai vécu une enfance dans un village au nord de la Jordanie, pas loin du lieu de naissance du prophète Élie, mais dans un village mixte entre les chrétiens et les musulmans. Et puis, j'ai étudié à Beit Djala, au séminaire de Beit Djala, qui est à côté de Bethléem.
Donc en Cisjordanie.
En Cisjordanie. Et puis, je suis retourné ici, après mon ordination sacerdotale ici à Amman, en 1995. Ça fait presque 30 ans de sacerdoce. J'ai étudié le master pour les relations politiques, et puis le doctorat au Liban pour la philosophie politique. Et je travaille aussi dans les médias comme directeur et fondateur du site qui est bien connu dans le monde, abouna.org.
Abouna qui signifie ?
Qui signifie notre père. Et il y avait la fondation du Centre catholique des médias des études. On a des relations avec le Vatican, avec les centres de communication partout, pas seulement dans le Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. Alors ici aussi, on a des relations avec les gens des médias, les journalistes, mais aussi avec les institutions, les organisations qui se trouvent intéressées pour le dialogue interreligieux. On organise pas mal de conférences, de sessions, de workshops.
D'ateliers.
Oui, pour approcher les gens. Pour s'approcher les chrétiens et les musulmans ensemble pour regarder les problèmes humains dans le monde avec un regard commun. Et ce n'est pas facile, mais c'est aussi important. On ne peut pas s'éloigner de ce chemin, de cette voie de reconnaissance mutuelle, de respect mutuel.
Ce dialogue doit s'étendre à tous les niveaux de la société, rappelle également René Hattar, qui organise régulièrement des sessions depuis l'Institut royal d'études interreligieuses, et pas seulement sur le dialogue entre musulmans et chrétiens en Jordanie.
On a aussi évolué pour étudier d'autres religions, pour parler de dialogue interreligieux, pour parler de dialogue intellectuel sur les religions. Et après, on a vu la nécessité de sortir des cercles académiques, d'élite, pour aller donner des formations ou même travailler sur ces sujets avec les autres gens dans la société, les jeunes, les professeurs, les guides touristiques, les journalistes peut-être.
Comment vous allez les chercher, les jeunes, en fait, comment vous les ciblez?
En général, on travaille avec les jeunes entre 18 ans et 35 ans. La plupart sont des étudiants des universités en Jordanie ou des jeunes gens qui ont déjà terminé leurs études ou travaillent dans des ONG ou dans des universités, dans des écoles, etc. Surtout pour les préparer et donner une vraie explication de la situation. Et surtout après les guerres en Irak, en Syrie, parce qu'on a commencé à voir qu'il y avait beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et ce n'était pas toujours exact, correct. On a beaucoup de manipulations, on a eu beaucoup d'idées extrémistes. Donc l'idée, c'était de les former pour savoir, par exemple, sur la citoyenneté, sur les droits de l'homme, par exemple, quels étaient leurs droits, mais quelles étaient leurs obligations aussi comme citoyens. Pour entendre qu'ils vivent dans une société où la religion est une composante importante, mais en même temps qu'il faut considérer les autres composantes de la société où on vit.
Et René Rattard insiste, il faut parler avec tout le monde. Ce dialogue est pourtant difficile en ce moment, même entre musulmans et entre chrétiens.
On a beaucoup d'amis juifs dans le monde, des académiciens, des experts, des auteurs, qui ne sont pas d'accord, pas du tout, avec cette guerre. Donc ce type de dialogue académique, intellectuel, est là. Mais si on parle des gens dans la société, ils ne peuvent pas voir ça. Ils voient l'injustice, ils souffrent vraiment parce qu'ils ont des familles, des amis, des personnes qui souffrent tout ce qui se passe à Gaza ou en Palestine. Donc, quand on parle de dialogue, il faut aussi respecter qu'il y a des bases pour le dialogue. Donc, je ne peux pas parler de dialogue avec quelqu'un qui a beaucoup plus de pouvoir que moi. Il faut être toujours au même niveau,
à égalité.
Vous ne pouvez pas me parler d'un point de supériorité. Et ça, c'est très, très important pour le dialogue. Donc, le dialogue, il s'agit aussi des intentions, d'une préparation pour entrer dans le dialogue.
Mais si donc là, l'intention n'est pas favorable, on va dire. Là, on est dans une situation de guerre, donc le dialogue n'est pas possible pour l'instant. Mais vous contribuez quand même à cette distinction que vous venez d'expliquer.
Mais aussi le dialogue entre nous, je veux dire. Si je ne peux pas parler maintenant avec un Israélien ou un Juif, mais il faut parler entre nous aussi. Parce que même dans la guerre maintenant, il y a beaucoup de parties, même entre nous, en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc dans une situation comme ça, de guerre, de haine, de souffrance, et il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de... On ne peut pas être objectif, soi-disant. Donc là, le dialogue entre nous, interne, est beaucoup plus important aussi, si on parle de ça.
Il se fait.
Et c'est pour ça, pour nous, dans toutes ces sessions, c'était aussi important d'ouvrir une voie ou un espace sûr, pacifique, non violent, pour avoir de la confiance pour parler entre nous. Et ça, c'est très important, je pense.
C'est la fin de cette émission consacrée au dialogue interreligieux en Jordanie sur lequel misent les autorités dans ce contexte de guerre à Gaza. Une émission réalisée avec le concours du Jordan Tourism Board et de l'ambassade de Jordanie en France. Merci à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices et au guide Firas Malkawi pour les traductions. Cette émission réalisée par Ludivine Amado est à réécouter en podcast sur l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.